Ça ira. Les aristocrates, on les pendra.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption.
Est-ce que vous mangez les riches ?
Alors, il y a ici de l'extrême gauche, des mecs des banlieues, des syndiqués, des papis, même des touristes pris dans le truc.
Vous êtes ici chez les salopards, hein ? C'est admis.
On va rester groupés, ça va bien se passer.
La chronique de Maëlle sur Divergence.
Salut tout le monde! Et oui, me revoilà, nouveau studio, nouvelle année, nouvelle chronique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire globalement tous ceux qui m'écoutent en ce moment même, moi c'est Maëlle. J'ai 21 ans, je suis étudiante journaliste, ancienne stagiaire chez Divergence, et je suis spécialisée en pas grand-chose, si ce n'est donner mon avis quand personne me le demande. Je suis féministe, antifa, vulgaire, très souvent de mauvaise foi, et globalement j'emmerde tout le monde, principalement les hommes et les fachos. Alors je viens de dire que je suis journaliste, mais petit disclaimer cependant pour la team premier degré, vous risquez pas d'apprendre masse de trucs avec moi, parce que comme je viens de le dire, je suis pas experte en grand chose, puis je suis surtout là pour vider mon sac. Ben oui, bénévole à Divergence ça paye pas, mais ça reste quand même moins cher que les séances de psy. Je tâcherai toutefois d'essayer de vous faire rire, parce que j'ai malgré tout beaucoup de prétentions et un ego surdimensionné. Voilà, ça c'était pour les présentations, mais passons aux choses sérieuses. On s'est quitté la saison dernière sur un état des lieux catastrophique. Le génocide à Gaza dans l'indifférence générale, la Légion d'honneur de Marlène Schiappa, la France à feu et à sang, et Coé de retour sur Europe 2.
Voilà !
Moi c'est pas cool.
Coé sur Europe 2, 7h-11h.
L'émission qui déchire est de retour.
C'est bien simple, le moindre coup d'œil aux informations me donnait envie de partir élever des lamas en Bolivie. Alors pas de bol, il me reste une année d'études, j'ai pas de thune pour partir en Bolivie, j'ai peur des moutons et de toute façon je parle pas un mot d'espagnol. Mais là ça y est, je suis reposée. J'ai passé mes 3 mois d'été à emballer des baguettes et des croissants de 5h à 14h en saignant des oreilles, à force d'entendre 40 fois par jour l'ignoble remix de Bonnie Tyler par David Guetta. Ça là, ça c'est exactement ce que j'entends quand je visualise l'enfer. Mais bon, mon loyer va pas se payer tout seul, ni mes pintes de blonde au bar. Bref, trêve de plaisanterie, on n'est pas là pour parler des choix artistiques de David Guetta ni de mon alcoolémie. On va plutôt se concentrer sur ce qu'il se passe dans ce beau monde. Et on va commencer cette saison sur les chapeaux de roue, puisque lundi 8 septembre, ce n'était pas que l'anniversaire de mon papa, c'est aussi le jour où la situation politique du pays est de nouveau partie en couille.
L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement.
Et oui, on pensait pas pouvoir faire pire qu'un gouvernement de merde installé sans aucune légitimité après une dissolution inopinée en plein Jeux Olympiques. Mais il faut croire que si, Macron et ses sbires ont de la ressource pour ne pas qu'on s'ennuie. Parce que voilà, François Bayrou, le Premier ministre, a décidé de demander la confiance de l'Assemblée vis-à-vis de son gouvernement et de son programme budgétaire. Je sais pas si c'est de l'audace, de la naïveté ou une façon désespérée de quitter le navire avant qu'il ne prenne la flotte, mais c'est couillu, hein. J'aurais pas tenté personnellement celle-là. L'intégralité du pays le déteste pour des raisons diverses et variées, notamment sa complicité plus ou moins avérée dans l'affaire pédophile de Bétarame, son mépris vis-à-vis des Français ou encore son incompétence digne d'apparaître dans le Guinness Book des records. Et juste avant les vacances, excès de confiance ou coup de chaud, que sais-je, il s'est senti pousser des ailes en annonçant que les travailleurs allaient devoir se serrer la ceinture encore un petit peu plus pour enflouer les caisses de l'État. À ce stade-là, c'est plus une ceinture, mais c'est un garrot, le bail. Les prix Nobel d'économie ont eu beau crier partout que c'était pas tant la peine de s'emmerder à la rembourser, cette dette, mais notre génie béarnais a foncé tête baissée et a exposé son plan pour économiser un petit peu d'oseille. Parmi ces annonces, la suppression de 2 jours fériés, pas trop importants, le lundi de Pâques et le 8 mai.
Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère.
François a sans doute dû sécher les cours d'histoire, non pas au vu de l'importance symbolique du 8 mai dans notre histoire et au vu de la montée du fascisme, mais parce qu'en France, on a la fâcheuse tendance de couper les têtes de ceux qui veulent nous exploiter. La dette publique a augmenté de 1000 milliards depuis 2018. 1000 milliards, vous vous rendez compte ? Alors je vous connais, vous allez dire « c'est qui est au pouvoir depuis 2017 ? C'est Macron, hein ?» Et je vous répondrai déjà, on dit pas « c'est qui, c'est pas poli ». Et puis que d'abord, comme l'ont clamé partout les oligarques de ce pays, aka ceux qui n'en branlent pas une bien assis dans leur fauteuil, ben c'est de la faute des Français. Mais oui, mais vous êtes pas chiés aussi, vous là, à claquer votre SMIC dans des paquets de pâtes Panzani au lieu de prendre de la sous-marque et à prendre des arrêts de travail à tout va parce que soi-disant, un, vous avez des problèmes de santé à cause de vos conditions de travail. Non mais oh ! bande de feignasses. Non mais c'est facile aussi d'un râler et de rejeter toujours la faute sur les autres.
Un rhume, une angine, et on va pas bosser, mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses?
Ça agace, hein? Ça agace que des mecs en costard cravate et bite bien gras à force de s'enfiler des entrecôtes à la truffe entre deux gorgées de veuve cliquot aux frais du contribuable vous accusent d'être les responsables de la hausse de la dette et de la misère qui est devenue norme dans ce beau pays.
Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Non. Je fais la sourde oreille à tout ce que les peuples me racontent. Mais...
Toujours est-il que notre François mal-aimé a payé de sa place son arrogance. Il a réussi ce que des années de dialogue et de coalition n'ont pas réussi à faire, unir tous les partis politiques, à l'exception de la droite Cato et de la droite Manu, autour d'une même détestation de lui-même. 364 députés ont voté contre le maintien de la politique Bayrou, signant à François un aller simple pour Pau, où il risque pas d'être accueilli les bras ouverts au vu de la réputation de merde que son incompétence a collée à la ville. Mais enfin, on va pas gâcher notre temps et notre énergie à parler d'un bouffon, on va plutôt parler de l'autre bouffon qui le remplace. Les petits fours du pot de départ de Bayrou n'étaient même pas encore refroidis que Manu a annoncé dans la foulée le nouveau poulain de Matignon, j'ai nommé Sébastien Lecornu. Alors lui, si vous le connaissez pas de nom, c'est pas un nobody dans le bain macroniste, puisqu'il était déjà ministre des armées depuis 2022, après avoir commencé sa carrière politique avec Nicolas Hulot et Bruno Le Maire. Ça, c'est de l'entourage 5 étoiles. Lecornu, c'est un chouette personnage, puisqu'il est de droite, homophobe, pro-chasse, proche du RN, il a une enquête au cul, et puis c'est le chouchou de Brigitte, en raison notamment de ses chouettes imitations de Sarkozy et de Funès. Allez hop, le quintet dans l'ordre. Les paris sont ouverts, combien de temps le joueur Lecornu va-t-il tenir? Moi j'ai misé 20 balles sur moins de 5 mois. Ben déjà parce que c'est encore un mec de droite pas élu démocratiquement et que le déni de démocratie ça commence doucement mais sûrement à casser les couilles aux citoyens. Par ailleurs, pour un président ni de gauche ni de droite, ça fait quand même 7 premiers ministres de droite nommés, je dis ça, je dis rien. Et puis aussi parce que le jour de son investiture, c'était le jour où les Français étaient dans la rue pour répondre à l'appel Blocontou. Et ça c'est pas un très très bon indicateur pour l'avenir de ses bouffes. En tant que bonne grosse feignasse bobo gaucho, j'y étais dans le cortège et ma l'ambiance. J'ai vu un mec s'enfuir en courant après avoir chippé l'oriflamme du Carrefour Express à Louis Blanc, j'ai entendu des slogans inspirés, presque poétiques, et puis j'ai fait une cure de gaz lacrymogène. Un bien beau moment. J'avais plus de voix, des coups de soleil et les yeux gonflés, on aurait dit que je sortais d'une rave. Selon les syndicats, on était 10 000 à Montpellier et environ 250 000 en France, ou 175 000 selon le ministère public. Les grands médias et les suceurs de milliardaires se sont empressés de parler de flop monumental, sauf qu'en fait on était plus nombreux qu'à chaque rassemblement des Gilets jaunes, à l'exception du tout premier. Pourtant, dans les journaux télévisés, on a vu beaucoup d'images d'affrontements entre les CRS et les manifestants. Mais ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que la police, elle avait reçu pour ordre d'être violente. Retailleau avait donné des consignes avant d'être démis de ses fonctions par la chute de Bayrou. Voilà donc pourquoi, à Montpellier, les journalistes ont été pris pour cible, dont un de mes confrères de l'ESJ, Samuel Clausier, qui a été étranglé par un CRS alors qu'il faisait juste son taf.
Tu m'étrangles ! Tu m'étrangles ! Tu m'étrangles ! Tu m'étrangles ! Tu m'étrangles !
C'est l'intervention de police, fous le camp !
Non, non, c'est l'intervention de police ! Je travaille ! Je travaille ! Je suis journaliste !
Dans son malheur, il a la chance d'avoir filmé cette violence émanant des forces de l'ordre. Mais je suis même pas certaine que sa plainte sera suivie de sanctions. Parce que même si les manifestants ont été gazés puis nassés sans aucune raison, qu'un homme a été hospitalisé après avoir été atteint en pleine tête par un canon à eau et que tout ça a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, bah la préfecture 34 a dit « Hassoul, on n'a rien à se reprocher !» Les preuves, le préfet s'en bat les couilles. La police française est l'une des polices européennes les plus violentes en termes de maintien de l'ordre, et ça c'est pas vraiment bon signe pour notre démocratie et les droits qui vont avec. Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme alertent depuis de nombreuses années sur cette montée en puissance de la violence des forces de l'ordre. Il y a plein de facteurs pour expliquer ça, notamment le fait que des membres de la police sont mobilisés pour le maintien de l'ordre en manifestation, alors qu'ils sont pas formés pour ça. Pour les manifestations de mercredi 10 septembre, il y avait 80 000 forces de l'ordre mobilisées. Or, les effectifs formés au maintien de l'ordre pendant les manifestations, c'est les CRS, et il y en a environ 11 000 en France. Donc ça fait un petit peu moins de 70 000 personnes qui n'étaient pas spécialement formées pour les manifs, mais après on s'étonne que ça dérape.
J'ai glissé, chef.
Je sens qu'on va encore passer une année bien chargée. À l'heure où j'écrivais cette chronique, je ne savais même plus où donner de la tête. Et c'est que la première de la saison. La révolte populaire au Népal, l'ingérence russe en Pologne, la condamnation de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro à 27 ans de prison pour tentative de putsch, le copinage de Patrick Cohen et Thomas Legrand avec le Parti Socialiste, Benjamin Duhamel aux manettes de la matinale de France Inter, et l'exécution de Charlie Kirk en pleine conférence aux USA. Pour ceux qui n'auraient pas suivi cette dernière affaire, l'influenceur d'extrême droite Charlie Kirk, connu pour ses prises de position très anti-tout, est mort après qu'on lui ait tiré dessus alors qu'il donnait une conférence dans une université de l'Utah. La vidéo est particulièrement violente et la mort du proche de Donald Trump a divisé une bonne partie du pays. Pour certains, c'est un martyr et pour d'autres, c'est bien fait pour sa gueule. Alors, pour bien comprendre ce fossé entre les uns et les autres, il faut rappeler le caractère sulfureux du bonhomme. Charlie Kirk était donc pro-Trump, très conservateur, complotiste, raciste, climato-sceptique, anti-avortement, fervent défenseur du port d'armes, pro-Israël et j'en passe et des meilleurs. Si vous avez suivi, vous comprenez donc que lui et moi, on serait pas allés boire un café ensemble pour papoter. Alors de là à dire qu'il méritait de mourir, non, bien sûr. Mais, quand on affirme que des victimes collatérales sont nécessaires et le prix à payer pour garantir à tous le port d'armes, c'est une bien belle ironie que d'être soi-même une de ces victimes collatérales. Alors je vais pas pleurer la mort d'un homme nostalgique de l'esclavage des Afro-Américains, je ne vais pas pleurer la mort d'un homme qui soutenait le génocide à Gaza et qui semait la haine de l'autre partout où il passait. Et je ne pleurerai pas non plus la mort d'un homme qui affirme haut et fort que, dans l'éventualité où sa fille était victime d'un viol et tomberait enceinte des suites de cette agression, il la forcerait à garder l'enfant.
You had a daughter and she was 10 and she got raped. And she was going to give birth and she would, no wait, oh, and she was going to give birth and she was going to live. Would you want her to go through that and carry her baby?
That's awfully graphic.
But it's a real life scenario that happens to many people.
The answer is yes, the baby would be delivered.
Et quand on voit qui le pleure, on comprend mieux pourquoi son meurtre divise. Alors petit indice, ceux qui le pleurent, ce sont les mêmes qui valident le meurtre de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes innocents en Palestine. L'indignation à géométrie variable, ça me fait doucement sourire. Une vie est une vie, ça marche pour les influenceurs d'extrême droite, mais bizarrement ça marche plus pour Naël, Adama Traoré, Clément Méric et tous ceux qui combattent les idées de cette même extrême droite. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le monde va mal, le fascisme est à nos portes, les gouvernants n'ont que faire des revendications de ceux qui sont censés représenter, la haine alimente les divisions entre les hommes et l'avenir est incertain. Mais n'oubliez pas que l'histoire n'est pas dans les mots, elle est dans la lutte. Pour nos droits, nos libertés, nos idées, nos valeurs, contre les fascistes, contre les racistes, contre les misogynes et contre les remixes pourris de David Guetta. Alors soyez curieux, restez voltés et bisous.
Les aristocrates, on les pendra.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption.
Est-ce que vous mangez les riches ?
Alors il y a ici de l'extrême gauche, des mecs des banlieues, des syndiqués, des papis, même des touristes pris dans le truc.
Vous êtes ici chez les salopards, hein ? C'est admis.
On va rester groupés, ça va bien se passer.
La chronique de Maëlle sur Divergence.